Réplique, lire Pascal aujourd'hui avec Jacques Julliard et Michel Schneider. On peut être voltairien, on peut être rousseauiste, camusien, sartrien, kantien, marxiste ou que sais-je encore, mais comment le lecteur, même le plus éperdument admiratif de Pascal, pourrait-il être pascalien? Comment pourrait-il faire sienne cette pensée abyssale « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde » Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et pourtant, Jacques Julliard, le grand historien des gauches françaises, nous disait naguère dans un livre d'entretien avec Benoît Chantre qu'il avait fait le choix de Pascal. Et le psychanalyste Michel Schneider publie un Pascal dans la collection « Les auteurs de ma vie » chez Buchet-Chastel. Je leur demanderai donc de m'éclairer sur la nature de leur lien intellectuel et existentiel avec celui que Voltaire justement appelait le misanthrope sublime. Jacques Julliard.
Pour employer un vocabulaire qui est le vôtre, Alain Finkielkraut, je dirais que pour moi, Pascal est le mets contemporain capital. C'est-à-dire celui vers lequel je me tourne chaque fois que décidément. Je trouve le monde dans lequel je vis ou décevant, ou frivole, ou désespérant d'ailleurs. Et donc, pour moi, Pascal, c'est une lecture permanente, par bribes, par fragments, parce que je crois qu'on ne peut lire Pascal que comme cela, mais sur deux plans. Sur le plan que vous avez justement appelé existentiel, pour les raisons que je viens de donner, c'est-à-dire Pascal est l'homme qui, chaque fois, m'empêche de tricher avec le monde ou de tricher avec moi-même. Au fond, quand je l'ai découvert à 18 ans, c'était parce que je vivais dans une espèce de croyance religieuse vague, etc. Et Pascal était un choc, un paquet de mer que vous recevez dans la figure. Et puis deuxièmement, ça on peut développer, mais au fond c'est l'aspect peut-être le plus incommunicable de la relation qu'on peut avoir avec Pascal. L'autre, c'est une méthode de pensée. Pour moi, Pascal est l'homme qui m'a délivré de Hegel. Je veux dire par là que nous étions adolescents ou jeunes étudiants enfermés dans la dialectique hegélienne, c'est-à-dire un monde complètement fermé sur lui-même, fier de ses certitudes. Et qu'est-ce que la dialectique pascalienne, celle que j'ai redécouverte chez Proudhon, chez Simone Weil et quelques autres, et c'est une dialectique qui ne s'arrête jamais, qui est toujours en échelle de perroquet et qui nous oblige à ne jamais conclure sur les grands problèmes de notre vie personnelle et de notre vie sociale et politique.
Alors, un mot simplement sur mes contemporains. Ce terme, je l'ai découvert moi-même chez Peggy. C'est
oui.
Un mot valise que Peggy utilise et que j'ai trouvé et qui le caractérise très bien.
Tout
de
fait.
Même, semble-t-il, qu'il caractérise Pascal. Michel Schneider.
Je ne peux pas me dire pascalien. Et d'ailleurs, Pascal n'est pas pascalien. C'est-à-dire, ce qui le caractérise, c'est cette dialectique permanente entre lui et lui-même, ses contradictions. Et le texte que j'ai fait pour présenter les écrits de Pascal s'intitule « Pascal contre Pascal » parce qu'il est sans arrêt en lutte, en division interne, ce qui est le propre d'une pensée tragique. Donc, pourquoi aujourd'hui revenir à Pascal? J'irai d'abord parce que nous l'avons perdu. Un aparté bref, personnel. Quand j'étais en terminale, vous avez eu un professeur de lecture qui vous a amené à Pascal.
Oui.
Moi, j'avais un professeur au lycée Buffon qui s'appelait Monsieur Grenet et qui nous a fait un trimestre sur Pascal. C'était en 1960. Aujourd'hui, si vous interrogez évidemment, ne parlons pas même de lycéens, mais des étudiants, et des étudiants en lettres ou en philosophie, ou même leurs professeurs, vous leur parlez de Pascal, ils vous répondront Pascal Obispo, quelque chose comme ça.
Peut-être pas quand même.
Peut-être pas quand même.
Vous êtes plus pessimiste que moi encore.
L'éducation nationale, en rompant le lien entre l'enseignement du français et l'enseignement de la littérature française, a fait que Pascal aujourd'hui est certainement le moins lu des auteurs de son siècle. Alors, pourquoi revenir à Pascal aujourd'hui? Je dirais parce que c'est une façon de revenir à nous-mêmes, de revenir à nos interrogations tragiques sur le sens inconnaissable. C'est l'anti-Descartes, hein, c'est l'impossibilité de jamais se connaître, qui nous attire vers lui parce que dans le monde de sens défait, de sens introuvable, Pascal, en ses divisions multiples, nous parle de ce que nous sommes devenus. Je prends une citation. « Je ne sais pas qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît pas plus que le reste. » Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'en un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que les infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. C'est bien l'existentiel même qui est posé là.
Mais alors, vous parlez de la dimension tragique de son œuvre, Michel Schneider, et vous disiez tout à l'heure, Jacques Julliard, que vous vous tournez vers Pascal quand le monde vous paraît trop désespérant. Mais...
Ou insignifiant.
Ou insignifiant. Mais la lecture de Pascal est, malgré le pari, si j'ose dire, une sorte d'école de désespoir. Il a beau écrire une apologie pour la religion chrétienne, ce qu'il dit de la mort est absolument terrible. Le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Tout est à l'avenant, et même quand il parle de la religion, ce n'est jamais de manière consolante, parce qu'il dit ceci: s'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n'est pas certaine. Si vous voulez, c'est quand même ce moment où la métaphysique chavire, où il n'y a plus aucune évidence de l'au-delà, où la foi est rongée par le doute, et elle continue de l'être. Et d'ailleurs, c'est un peu, me semble-t-il, le grand paradoxe du rapport entre l'athée et le croyant, depuis Pascal. Parce que, pour l'athée que je suis, le néant relève de la certitude. Il n'y a pas d'au-delà. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vis. Je le vis sous la forme, si vous voulez, oui, d'une véritable évidence. Et un jour, je l'ai dit dans un débat public avec le cardinal Lustiger, le croyant sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Mais il y a, en effet, chez Pascal, une espèce de désespoir à l'intérieur de la foi elle-même qui rend d'ailleurs son œuvre absolument fascinante. Jacques Julliard.
Écartons un faux débat, le pari auquel vous avez fait allusion un instant. Je trouve que le pari, c'est le moment non pascalien de l'œuvre de Pascal. Je crois qu'on sera facilement d'accord là-dessus. Je voudrais simplement, presque pour le plaisir, vous citer, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Simone Veil, personnage très pascalien, oui, à bien des égards, dans L'Enracinement, un des plus beaux livres du siècle. Pascal avait déjà commis le crime du manque de probité dans la recherche de Dieu. Rien que ça. Et elle explique, il a cherché des preuves dans le domaine des probabilités, des indications, il a aperçu des choses très fortes. Mais quant aux preuves proprement dites, il n'en a mis en avant que de misérables, l'argument du pari, les prophéties, les miracles. Et de fait, tout ce que nous venons de dire, et spécialement ce que vous venez de dire à l'instant, Alain, s'inscrit au fond contre cette vision rationaliste ou rationalisée du salut. C'est pas ça, Pascal. En effet, Pascal est complètement tragique. Je voudrais simplement, par rapport à ce que je pense, vous dites l'un et l'autre, nuancer le côté existentiel, tragique, presque désespérant, j'ai employé ce mot moi-même à un instant, de Pascal. Vous dites, Michel Schneider, il n'est pas sûr que Pascal soit croyant. Vous dites, il faut prendre en compte l'incroyance de Pascal. Et je vous suis là-dessus. Il le dit lui-même très explicitement. Qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut rien savoir sur Dieu. Sauf que le seul, mais pour lui c'est capital, le seul éclair à la fois de rationalité et d'espoir dans ce monde, ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle celui qu'il appelle le médiateur. Il dit, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ et sans, je cite un peu de mémoire, mais sans l'intervention de ce médiateur, eh bien, toute connaissance de Dieu est inutile, elle est presque néfaste. Autrement dit, dans le débat croyance-non-croyance, qui est, à mon avis, un débat toujours un peu futile, secondaire, Pascal ne nous aidera pas. Pascal ne peut nous aider que dans le domaine de la foi. Il n'y a pas d'auteur chez qui l'abîme entre la foi et la croyance soit aussi grand que chez Pascal. Pascal est ouvert à toutes les incroyances, il est de tempérament sceptique, il est lecteur de Montaigne et des grands sceptiques, et là-dedans, il y a la rencontre d'un homme Dieu qui est Jésus-Christ. Et à partir de là, tout se reconstruit. Je dis là des évidences, mais il ne faut jamais les oublier. Dans le caractère tragique qui est l'univers pascalien, j'allais citer la phrase que vous dites sur la mort, vous m'avez simplement devancé. Il y a cela, quoi. Et donc, cette espèce de paradoxe d'un Pascal tragique et en même temps tout entier, revivifié, ressuscité par sa foi en un homme, en Jésus-Christ, qui n'est pas une croyance. On peut avoir foi en Jésus-Christ sans croire en Dieu, à la limite. Moi, c'est ma tendance naturelle. Je crois que Dieu existe parce que Jésus-Christ l'a dit, mais autrement, c'est ce que dit Pascal. Mais je ne vois pas d'autre raison de croire en Dieu.
Michel Schneider.
Sur l'incroyant Pascal, deux choses. La première, c'est qu'il y a une chose qui m'a toujours scandalisé, c'est ce « faites semblant de croire et bientôt vous croirez ».
Ouais, mais ça c'est comme le parc.
L'idée que tout ça est une comédie et qu'à force de se persuader que Dieu existe, il va bien finir par se faire sentir. Bon, l'autre chose, c'est effectivement le pari, qui est un scandale. Pascal cherche non pas des preuves de l'existence de Dieu, mais des probabilités, et par le calcul entre l'espérance qu'il y aurait à croire à son existence. Bon, Proust dit quelque part, dans une lettre, il dit « Moi, je trouve cette foi bien fragile, qui a besoin de parier sur les grands nombres pour persuader les fidèles de l'existence de Dieu. » Donc, ce côté...
Sauf, si vous permettez, je n'interromps pas d'instant... C'est quand même un discours qui s'adresse aux libertins, c'est-à-dire à l'incroyant. Je ne suis pas sûr que Pascal applique le pari à lui-même.
Quand il coud dans sa redingote et le recoue à chaque fois qu'il en change le mémorial, ce texte presque de folie mystique, de possession mystique, ouais. Il se comporte comme un primitif avec un fétiche accroché à son corps qui voudrait croire que Dieu est là, alors qu'il sait que Dieu, il le dit lui-même, Dieu est absent. Enfin, c'est un Dieu caché. Hein. Oui. Ce oui. Que reprendra ensuite Lucien Goldman, c'est un Dieu caché. Mais caché, on a presque l'impression, avec ce thème de la comédie qu'est la vie pour lui, que c'est comme dans le théâtre à machines de son siècle, Dieu va sortir de la scène à la fin pour se révéler aux libertins et aux incroyants. Donc, c'est quand même une foi très fragile. Maintenant,
Une croyance, si vous permettez. Croyance.
Mais c'est ce qui est aussi touchant chez lui, c'est précisément cette lutte entre l'incroyance et la foi. C'est ça qui en fait un personnage profondément divisé et profondément proche de nous aujourd'hui.
Alors justement, vous dites d'ailleurs dans votre livre, Michel Schneider, quelle joie dans la foi de Bach et quelle mélancolie dans la religion de Pascal. Et là, je voudrais poursuivre encore un peu sur cette question de la mort. C'est un peu l'un des mystères du catholicisme. Peut-être d'ailleurs parce que Dieu est mort, avec, si j'ose dire, enfin, Jésus-Christ est mort. Dieu même a connu la mort, comme le disait Peggy commentant Polyeucte. Le catholicisme dit sur la mort des choses d'un réalisme inimaginable. Parce que je pourrais citer avec Pascal le sermon Bossuet et le sermon sur la mort. Alors Bossuet veut nous convaincre que la vraie vie, eh bien, elle nous attend après la mort, que du fait que nous mourrons, cette vie compte pour rien, que nous avons une autre maison qui nous est préparée au ciel. Or, en réalité, tout ce qu'on retient de ce sermon sur la mort, c'est la beauté presque insoutenable de sa description. Il n'y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes, la chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps, il deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Voilà comment parle Bossuet, et c'est ça qu'on retient, pas forcément, pas du tout même, la maison qui nous est préparée au ciel. Alors Bossuet et Pascal, c'est pas du tout la même chose, sauf que sur cette question de la mort, il y a chez l'un et chez l'autre un réalisme inouï, Michel Schneider.
Bossuet, il est dans l'éloquence, il parle en chair. Pascal, il parle à chacun de nous dans le plus intime. Cette phrase qui est la plus belle des pensées, qui tient en trois mots, on mourra seul. Oui. On mourra seul. Point. Bon, est-ce qu'un chrétien convaincu peut dire on mourra seul?
Tous les grands chrétiens ont dit ça, Michel Schneider.
On mourra seul, mais accompagné si possible de l'extrême onction et de la promesse d'une vie au-delà de la mort. Donc, cette espèce de dimension profondément tragique, c'est quand même bien celle de notre temps, hein, qui s'entend là, dans ce battement, dans cette peur de l'infini qui suit...
Je lis la phrase tout entière, « Misérables comme nous, impuissants comme nous, nos semblables ne nous aideront pas, on mourra seul. » Jacques Julliard.
Vous avez prononcé le mot « joie » tout à l'heure, et on ne peut pas ne pas penser à ce roman inouï,
La joie de Bernanos,
qui est un des romans les plus tragiques que je connais et qui a eu le culot d'appeler La joie. Il n'y a pas de livre qui, au sens premier du terme, soit aussi éloigné de ce que nous appelons couramment la joie que Bernanos. Or, il y a dans cette conviction, qui est celle de Bernanos, un écho, à mon avis, très direct de Pascal, le personnage de Chantal de Clergury, dans La joie, c'est ça. Et je voudrais vous faire une citation, car à présent, l'idée, la certitude de son impuissance était devenu le centre éblouissant de sa joie, le noyau de l'astre en flamme. Et c'est la mystique à l'état pur, où la joie, au sens, je dirais, de Pascal, de Bernanos, de Simone Veil, ne se révèle qu'au bout du désespoir, qu'au bout du tragique, qu'au bout du sacrifice total qu'est pour nous notre mort. C'est quelque chose qui est impensable en termes purement rationnels et qui est, je crois, le fond de la spiritualité de ces hommes qui n'a rien à voir, c'est pour ça que j'éliminais le pari, qui n'a rien à voir avec l'idée consolante que, à condition d'avoir accumulé des mérites, eh bien, on connaîtra le bonheur dans l'autre monde, qui est la conception, au fond, qui existe spontanément dans toutes les religions. Mais de ce point de vue-là, ceux que j'ai cités, c'est-à-dire Pascal et Simone Veil ou Bernanos, qui sont sur ce plan, en tout cas, ses disciples, sont absolument aux antipodes de cette vision purement épicière, en quelque sorte, du christianisme.
Mmh.
Michel Schneider, vous dites, ajouter quelque
Pascal chose. N'a pas eu d'enfant, mais il a des écrivains qui sont aujourd'hui pascaliens, enfin aujourd'hui, plutôt hier, Bernanos, Beckett, où on retrouve effectivement ce désespoir absolu de l'insensé d'être au monde, de l'insensé de ce que Suarez appelait la bassesse de vivre. Bon, ce thème-là, alors ce qui fait quand même la différence entre ce pessimisme tragique de Pascal et celui de Bernanos, c'est la place faite au corps, je crois, dans les trois ordres de Pascal. Pascal a une haine du corps, de son propre corps, comme étant la source et le lieu du péché originel, qui fait que ça l'amène quand même très loin de la vie, hein, je dirais, et de la joie qu'il proclame très haut pour se persuader qu'il va la trouver en fin de compte. Des phrases comme « le seul bien dans la vie, c'est qu'elle se termine un jour », que dit Pascal, je le cite approximativement. Non, dire les maladies, du bon usage des maladies, je ne connais pas de bon usage des maladies. Le bon usage des maladies, c'est d'en sortir, c'est de se soigner, de se guérir. Donc ce côté « Dieu nous envoie les maladies pour nous grandir », ce côté « la souffrance rédime le mal d'exister », un tel rejet de la vie, et de la vie dans ce cas-là de plus corporel, de plus immédiat, de plus matériel, ça m'éloigne de Pascal.
Vous dites, Michel Schneider, dans votre livre, vous rappelez que, selon sa sœur Gilberte, c'est sa sœur,
oui,
c'est
ça,
ouais. Il portait une ceinture de fer pleine de pointes et la mettait à nu sur sa chair quand il se sentait enclin au plaisir, même celui de la conversation.
Ouais. Alors, sur ce thème du corps, effectivement, il y a chez Pascal une hérésie cathare. Il y a une tentation qui n'est pas du tout chrétienne au sens général, la preuve c'est les jésuites contre lesquels il a combattu et qui, au sens métaphorique, sont les défenseurs en quelque sorte du corps. Puisque notre thème c'est aussi l'actualité de Pascal, je voudrais dire à quel point ce débat sur le corps est un débat qui nous concerne directement en tant qu'homme du XXIe siècle. Parce que à la fois, tout notre siècle, et déjà le 20e, a été la réhabilitation du corps, peut-être au détriment de tout le reste, mais il y a une sorte, l'homme d'aujourd'hui est amoureux de son corps, voudrait trouver dans son corps des éléments sinon d'éternité, du moins d'immortalité, et en même temps, il y a une volonté chez nos contemporains d'échapper à l'enveloppe corporelle. Et ce qui se joue en arrière-plan dans le débat parfois ridicule et parfois émouvant autour de la théorie du genre, n'est-ce pas une résurgence séculière du débat sur le catharisme, c'est-à-dire sur faut-il que l'âme soit libérée du corps ou faut-il au contraire qu'elle vive avec le corps, que le corps est la demeure même de Dieu, donc il est sacré. C'est tout ce débat. Moi, je l'ai eu à un moment donné avec quelqu'un qu'on pourrait évoquer, qui est Jean Baster, parce que j'ai eu un débat avec lui que j'ai reproduit dans un de mes livres, et où il me dit je crois que tu es trop sensible à la vision apophatique de Pascal, de Simone Veil, où Dieu n'apparaît que sous la forme de l'absence. Et face à cela, il oppose au contraire une religion de la corporéité, de la matérialité, qui pour lui s'incarne dans Claudel, qui est de ce point de vue-là l'anti-Pascal.
Oui, alors en même temps, je crois que le rapport de Pascal au corps ne doit pas, dans ce qu'il peut avoir d'un peu pathologique, ne doit pas nous faire oublier ce qu'il y a d'extraordinaire et de pertinent dans la distinction des trois ordres.
Absolument.
C'est quand même un des textes fondamentaux de la pensée, je trouve. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines et à tous ces grands de chair. La chair, donc, l'esprit et ce qu'il appelle la charité, qui est un peu l'ordre du religieux. Voilà. Alors, je voudrais vous demander à tous deux, en quoi cette distinction vous paraît-elle capitale, Michel Schneider?
Elle est fondamentale pour comprendre ce qu'est la démocratie et ce qu'est la tyrannie. La tyrannie, dit Pascal, c'est la confusion des ordres. C'est se faire aimer, non pas parce qu'on a une politique pour le tyran, parce qu'on aura une politique qui serait juste ou qui correspondrait à l'intérêt général. C'est l'inverse, c'est parce qu'on est aimé qu'on estime être dans la voie du progrès. Bon, cette leçon de séparation, cette leçon de distance, Pascal dit très bien, la politique, c'est l'affaire des corps, c'est la gestion des corps. Et ça, c'est une idée extraordinairement actuelle. Qu'est-ce que c'est que la politique aujourd'hui, quand on réglemente le droit du travail, l'immigration, l'école? Est-ce que c'est autre chose qu'une emprise étatique ou la différence des sexes avec l'abolition de cette différence? Qu'est-ce que c'est que, sinon, la gestion par le pouvoir des corps? Et à cela, Pascal se refuse. Il dit bien, c'est le début de ce qu'on n'appelait pas le totalitarisme, mais ce qu'il appelle la tyrannie, que de croire que tout ça est légitime et que les politiques pourraient enfreindre cette différence première entre le corps et l'esprit.
Oui, vous avez raison, Michel Schneider, d'employer le mot totalitarisme, parce que Pascal nous donne, sous sa forme à lui, qui est toujours celle qu'on n'attend pas, mais une grande leçon de démocratie au sens le plus fort du terme. Qu'est-ce que le totalitarisme? C'est la confusion des ordres. C'est un pouvoir qui est celui de la chair, bien, c'est déjà un pouvoir violent de la chair, mais c'est aussi la volonté du pouvoir, de ce pouvoir de la chair, d'accaparer le pouvoir de l'esprit. Vous voyez ce qu'a été la gestion des intellectuels, de la science, sous Staline, par exemple, et du spirituel, c'est-à-dire des fins dernières de l'homme, puisque la volonté de tous les totalitarismes, c'est d'arracher aux religieux spécifiques sa spécificité pour la réintroduire l'espace politique. Alors, de ce point de vue-là, il y a une extraordinaire présence de Pascal dans notre monde, parce que tout ce qu'il dit sur les ordres, on pourrait appeler ça, en termes modernes, la laïcité.
Voilà.
Pascal est un professeur de laïcité. Il faut respecter les ordres. Il faut... Alors, lui... La politique de Pascal est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est à la fois une sorte de quasi-anarchisme, de libertarisme aristocratique, doublé d'une sorte de conservatisme pragmatique dans le quotidien. Et donc, de ce point de vue-là, il indique à la fois les voies de la liberté, et en même temps les limites de l'espace démocratique dans la vie des individus.
Alors justement, un mot sur la laïcité, car je crois qu'on est au cœur de l'actualité paradoxale de Pascal, parce que ce qu'il montre dans ce texte magnifique, c'est que la vie humaine n'est pas d'un seul tenant, mais elle n'est pas non plus tiraillée entre les deux patries du ciel et de la terre, comme le veut la métaphysique classique, puisqu'elle se déploie sur trois registres, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Et la charité est située au sommet de l'échelle. Leon Braunschweig dit qu'elle est un influx de grâce, une subvention transcendante aux forces de la nature en nous. Mais ce que montre Pascal, c'est que le principe religieux reste le principe suprême, mais il a cessé d'être hégémonique ou englobant.
Absolument.
La vie de l'esprit n'est pas de son ressort. Et Léon Braunschweig l'a écrit, ce dont témoigne ce texte, ce qu'affirme ce texte, c'est l'indépendance de l'ordre spirituel. Et ce qui donne à la laïcité sa définition la plus rigoureuse, non pas seulement rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient, mais dégager la vie de l'esprit de la tutelle religieuse, sans pour autant la faire tomber sous la coupe de la politique ou de l'économie. Et Laurent Laforgue, le grand mathématicien, médaille Fields, a écrit naguère dans la revue Conférence un article extraordinaire, l'école victime de la confusion des ordres. Ah, et il montre que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire l'utilitarisme, c'est la soumission de l'ordre de l'esprit à l'ordre de la chair, le tout culturel, c'est la fin des frontières, et il dit qu'avec le principe d'égalité des notes bienveillantes, on fait entrer la charité à l'école. C'est, voilà, on soumet l'école au principe de charité, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et si vous voulez, il donne une analyse rigoureusement pascalienne d'une des crises les plus graves de notre temps.
Mais dans la politique, ça se retrouve absolument. Quand vous avez un candidat à l'élection présidentielle qui dit à son public « je vous aime », mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Les politiques ne sont pas là pour aimer ce qu'on appelait autrefois les sujets, ni pour en être aimés. Or, c'est cette confusion des ordres qui est aujourd'hui au principe même de la politique. Pascal, ce qu'il nous dit dans les trois discours sur la condition des grands, il nous dit le pouvoir, il faut le respecter, il faut lui obéir, mais il ne faut pas mettre sa foi en lui, sa foi en lui, ni son amour en lui. Parce que ça, c'est d'un autre ordre, précisément, l'ordre de la charité. Bon. Et aujourd'hui, c'est une leçon de démocratie, de base, ne pas aimer le pouvoir. Absolument. Lui obéir quand il est légitime, lui recommander d'espérer qu'il va agir dans le sens de l'intérêt général. Parce que l'autre aspect de ces trois discours sur la condition des grands, ça s'adresse aux grands eux-mêmes. Et il leur dit, là aussi, c'est de l'ordre de l'incroyance. Ne croyez pas que vous êtes là pour être parce que vous avez été désigné par autre chose que la providence divine ou la chance. Vous ne croyez pas que vous êtes là pour vos mérites. Vous êtes là parce que des gens ont cru en vous à un moment donné et il faut ne pas les décevoir. Mais c'est une leçon de modestie qu'il recommande et qui est tout à fait actuelle. Quand on voit nos dirigeants croire qu'ils sont là, ils diront pas de droit divin, mais de droit démocratique, non, on n'a pas de droit d'être au pouvoir. On a des devoirs quand on est au pouvoir. Les droits, c'est un autre domaine.
Alors, Jacques Julliard, je reviens quand même sur le titre de ce livre, Le choix de Pascal. Vous êtes l'historien des gauches, vous êtes un homme de gauche. La gauche, c'est le choix de Rousseau. Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain. Les moralistes ont déjà déclamé contre le mal. Moi, dit Rousseau dans la préface de Narcisse, j'en découvre les causes. Les vices n'appartiennent pas tant à l'homme qu'à l'homme mal gouverné. Résultat, la politique s'ouvre un champ d'action illimité. Elle peut éradiquer le mal. Bon, il y a un rousseauisme inhérent à la pensée de gauche. Alors, qu'est-ce que Pascal peut venir faire là-dedans?
Alors, je suis content que vous me posiez cette question. D'abord parce que je considère que les deux plus grands philosophes français sont des écrivains. C'est Pascal et Rousseau. Moi, j'ai passé ma vie à osciller, à aller de l'un à l'autre et à marquer aussi leurs points communs. Ils ont la même idée de la chute, hein, n'oubliez pas. Ils ont tous les deux l'idée de la chute. Mais je veux pas me laisser entraîner sur ce terrain, j'essaye de répondre à votre question. Quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Le choix de Pascal », j'ai répondu à un défi à mon ami Benoît Chantre, à qui j'avais dit un jour sous forme de boutade, il faudrait réconcilier la gauche avec Pascal, c'est-à-dire avec le péché originel. Ah, il m'a dit, que veux-tu dire là? C'est quand même étrange. Alors, il m'a mis au défi, en quelque sorte, d'écrire. Et ce que je crois, effectivement, c'est que toutes les aberrations de j'ai une immense admiration pour Rousseau. Je prépare actuellement un livre sur Rousseau. Bon, et j'ai déjà consacré beaucoup de temps et beaucoup de pages. Mais je pense quand même que ce rousseauisme inné de la gauche, tel que vous venez de le décrire, Alain Finkielkraut, est à l'origine de beaucoup de confusion, beaucoup de crimes aussi. Car c'est une idée angélique qui n'est certainement pas chez Pascal, de la nature humaine, qui l'a conduite à lui faire confiance jusqu'au totalitarisme. Ce que je crois, c'est que réconcilier la gauche avec Pascal, à mes yeux, c'était essayer de faire comprendre à la gauche qu'elle On ne peut pas fonder une politique sur l'idée que l'homme est innocent, que l'homme est bon et que plus on lui accordera de liberté, plus il y aura une sorte de valeur, de bonheur ajouté dans la société. Eh bien, tous les exemples du XXe siècle nous ont démontré le contraire. Et donc, c'est toute l'anthropologie de la gauche qui est en cause, à mon avis, aujourd'hui. Au-delà des péripéties actuelles ou même de la période, c'est cette anthropologie que moi, je remets en cause.
Oui, alors, une anthropologie qui se résume par l'expression « tout est politique », qu'on retrouve d'ailleurs chez Rousseau lui-même, parce que tout est politique, ça veut dire que toute manipulation, toute transformation est permise, il n'y a pas de limite à ce que la politique peut faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les grands penseurs qui ont été eux-mêmes victimes du totalitarisme, comme Solzhenitsyn ou Kolakowski par exemple, ont été amenés eux-mêmes à une sorte de réhabilitation du péché originel. Ouais. J'ai sous les yeux un texte de Kolakowski qui dit « La foi en Jésus le Rédempteur témoigne de ce que nous autres êtres humains, nous n'avons pas la force de nous délivrer nous-mêmes du mal, que la souillure du péché originel pèse irrémédiablement sur nous et que nous ne pouvons nous laver de cette souillure sans recevoir une aide extérieure. Le christianisme serait donc la conscience de la faiblesse et de la caducité humaine. Il ne peut pas exister... dit Kolakowski, des christianismes prométhéens. Et je rappelle aussi le titre du livre de Philippe Roth sur un tout autre registre, La tâche de Human Stain. C'est de cette souillure-là aussi qu'il s'agit. Michel Schneider.
Oui, dans mon histoire personnelle, j'ai été militant maoïste, c'est-à-dire que j'ai précisément fait cette confusion des ordres de mettre une foi qui était de l'ordre de la religion dans un pouvoir qui est de l'ordre du siècle et des corps. Donc, Pascal m'a aidé à me désintoxiquer par cette séparation qu'il instaure, à retourner à une certaine laïcité, c'est-à-dire à ne plus croire que le pouvoir est autre chose que le pouvoir. Qui serait d'inspiration, je ne sais pas quoi.
Et le pouvoir n'est pas le salut, quoi.
Le pouvoir n'est pas le salut, et il y a effectivement quelque chose qui ressemble au péché originel d'exister. Bon. Et ça, Pascal le dit avec une telle force. Paul Valéry lui reprochait une détresse qui écrit bien. Et comme s'il y avait à mettre en doute. Moi, je trouve que d'abord, c'est une très belle définition de la littérature, une détresse qui écrit bien.
C'est pas mal.
Et que c'est ce qu'on peut faire de mieux, de ne pas oublier qu'il y a de la détresse, d'exister, d'être au monde, dans ce monde, et d'en voir tout le tragique, mais que on peut en faire quelque chose, on peut essayer de le penser avec Pascal. Et alors Pascal, en plus sur la dérive totalitaire, une force inouïe, c'est qu'il montre ses ressorts puissants, profonds, dans la psyché de chacun de nous. Qu'est-ce que vous voulez comprendre à Trump et à l'attrait immense qu'il a exercé aux États-Unis, ou à nos populistes européens ou français, sinon cette espèce de besoin de croire, ce que Pascal appelle l'aversion pour la vérité, parce qu'on débat aujourd'hui des faits alternatifs, mais nous avons profondément tous besoin de croire, nous avons une aversion pour la vérité, et Pascal dit très très violemment, nous haïssons la vérité, on nous la cache, nous voulons être flattés, on nous flatte, nous aimons être trompés, on nous trompe. Ben vous avez là la clé quand même d'un certain nombre de fonctionnements politiques de notre temps et pas seulement de celui de Pascal.
Je voudrais introduire une nuance supplémentaire. Je crois que nous sommes tombés d'accord pour dire que la distinction pascalienne des ordres est le fondement de nos institutions politiques. En tout cas, elle doit être...
Elle devrait l'être.
Le fondement de nos institutions politiques. Mais ce qui, au bout d'un certain temps, fait problème, c'est de dire, mais tout de même, ces ordres, certes, ils sont distincts, mais il faut bien qu'à un moment donné, ils communiquent. Sinon, nous vivons sur, nous devenons schizophrènes. Nous vivons sur plusieurs plans. Et là aussi, Pascal, je crois, du point de vue, alors rien à voir avec la foi, la religion, mais Pascal, dans sa méthode de pensée, ce que j'appelais sa dialectique, nous sert beaucoup. D'abord, il y a quand même, à la fin de sa vie, l'idée tout à fait bouleversante que, après tout, si c'était les jésuites qui avaient raison, on n'a encore pas parlé d'un des combats de sa vie, c'est-à-dire celui du jansénisme, parce que je crois effectivement que les pensées ne sont pas un livre janséniste. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est pas un texte, c'est pas un mot janséniste. Et c'est dans le mystère de Jésus. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Il a même écrit, j'aime l'humanité parce que Dieu a sauvé tous les hommes. Et il a rayé cette phrase. J'ai trouvé ça dans Braunschweig. Alors pourquoi l'a-t-il rayé? Je ne sais pas. Pour moi, ça me plonge dans des mystères. Mais il n'en reste pas moins qu'à la fin de sa vie, il dit... ce qu'il faut, c'est arriver à la conciliation des contraires. Et il y a une pensée, je peux vous la dire, où il dit, après tout, les jésuites ont peut-être un peu plus raison que les jansénistes. C'est incroyable que Pascal dise ça. S'il y a jamais un temps auquel on doit faire profession des deux contraires, c'est à propos de la conciliation des contraires, c'est quand on reproche qu'on en nommait un. Donc, les jésuites et les jansénistes ont tort en les scellant, en ne révélant chacun qu'une partie de la vérité, mais les jansénistes plus, car les jésuites en ont mieux fait profession des deux. C'est un texte un peu compliqué, mais qui veut dire que dans cette espèce de conciliation des contraires, eh bien, les jansénistes n'avaient pas complètement raison, loin de là. Et je termine là-dessus. Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est de cette espèce de raison, ce qu'il appelle la raison des effets. Le fait que l'on passe d'un certain niveau de croyance à un autre en changeant de catégorie. Il y a le peuple, et puis à l'opposé du peuple, il y a les demi-habiles. Les demi-habiles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les militants, en gros. Ensuite, il y a les habiles, ce sont les grands intellectuels libéraux, je traduis ça en termes modernes. De l'autre côté, il y a les dévots. Les dévots, ce sont les fanatiques de toute époque, et tout à fait au sommet, il y a ce qu'ils appellent les chrétiens parfaits. Mais tout le problème politique de Pascal, c'est de concilier, au fond, ceux qui ont sa sympathie, c'est-à-dire le peuple, les habiles et les chrétiens, contre ceux dont il se méfie, mais dont il connaît aussi les raisons, que sont les demi-habiles, c'est-à-dire les militants et les fanatiques.
Qu'est-ce que c'est exactement un demi-habile pour Pascal? Vous dites les militants, comment le définirait-on?
Les demi-habiles, ce sont les hommes qui ont compris que le peuple était trompé et que le pouvoir doit nécessairement tromper le peuple d'une certaine manière. Il faut que le pouvoir dise au peuple que les lois sont justes. Or, dit Pascal, les lois ne sont pas justes. Elles sont ce qu'elles sont, hein, vérité au-delà des Pyrénées, etc. Les demi-habiles, ce sont les lecteurs du Canard enchaîné. Ce sont ceux qui disent, écoutez, derrière tout ça, il y a du pétrole. Ou bien, enfin, vous voyez, c'est-à-dire cette vision critique de la crédulité populaire et qui joue un si grand rôle dans nos démocraties.
Ah oui. Et il est vrai que Pascal, c'est le grand penseur de la distinction, séparation des ordres, etc. C'est aussi pour ça que c'est un véritable régal de le lire, par-delà le désespoir dans lequel il vit.
De la contradiction. Il y a quelque part, sur sa méthode, il dit très clairement, dès que j'ai une pensée, je cherche tout de suite la pensée contraire.
Voilà.
Pour effectuer un choc entre deux idées, sans espoir de les concilier jamais. Il n'y a jamais de conciliation définitive. Quand il dit « faute d'avoir pu faire que ce qui était juste devint fort, on a fait que ce qui était fort devint juste ». Bon, c'est une définition, effectivement, d'accord, du passage de la démocratie au totalitarisme. Ce genre de choses, c'est un combat sans fin. Contrairement à ce que vous dites, je ne pense pas qu'il y ait de conciliation possible à l'horizon pascalien. Il reste un homme divisé, la société, pour lui, doit rester divisée entre des ordres et entre ceux qui y croient et ceux qui, simplement, veulent gouverner dans le sens de l'intérêt général.
Non, mais je précise, il y a sans arrêt des tentatives de conciliation des ordres, mais il ne peut pas y avoir de synthèse hegelienne. Ouais, ça, là-dessus, on est d'accord. Moi, je peux me permettre de poser une question à Michel Schneider.
Bien sûr,
vous écrivez dans votre livre, et j'approuve tout à fait, que Pascal est le plus grand écrivain français. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi.
C'est le plus grand écrivain français, je dirais presque, parce qu'il ne voulait pas être écrivain.
Oui.
Hein, il a voulu être mathématicien, il l'a été, un grand savant, mathématicien, homme d'affaires. Hein, on oublie toujours que Pascal a monté quand même des business avec le carrosse à 5 sols, les premiers transports en commun. Il était un polémiste et un théologien, il était un mystique. Il a fait une apologie de la religion chrétienne,
mais il
avait une telle horreur du style et de ce qu'ensuite Bénichou appelait le sacre de l'écrivain, il ne se voulait pas écrivain. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il est probablement le plus grand écrivain au sens de la porteur de la langue française, hein, enfin qui est quand même chez lui inégalé. C'est pour ça que les critiques de Valéry à son encontre en disant tout ça est trop d'habileté, trop de forme. Oui, mais on retrouve d'ailleurs ça chez Bernanos, cette haine par un très grand écrivain de la profession d'écrivain.
Je disais en commençant, et l'émission va bientôt se terminer, qu'il était très difficile de se dire pascalien. Et je voudrais vous citer très brièvement un philosophe pascalien, paradoxalement, qui est d'ailleurs un très grand écrivain de la philosophie, il s'agit d'Emmanuel Lévinas. Dans Autrement qu'être, au-delà des sens, il met en exergue l'une des pensées les plus connues de Pascal, c'est là ma place au soleil, voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Et voici comment Lévinas commente cette phrase. Crainte pour tout ce que mon existait, malgré mon innocence intentionnelle et consciente, peut accomplir de violence et de meurtre. Crainte qui remonte de derrière ma conscience de soi, et quel que soit vers la bonne conscience, les retours de la pure persévérance dans l'être. La crainte d'occuper dans le da de mon Dasein la place de quelqu'un, incapacité d'avoir un lieu, une profonde utopie, crainte qui me vient du visage d'autrui, dit Lévinas. Et c'est une réflexion éminemment pascalienne.
Oui.
C'est le sens le plus profond de cette formule que tout le monde connaît, le moi est haïssable.
La grande leçon, c'est que à une époque où nous assistons au carnaval des fiertés, fierté de ceci, fierté de cela, Pascal nous enseigne que le monde ne nous doit rien, naître et être ne nous ouvre pas de droits, ni des droits liberté, ni des droits créance, et que ce que nous avons à faire ici-bas, nous avons à le gagner. Il n'y a pas de dû de la société vis-à-vis de chacun de nous. Nous n'avons pas à être fiers d'être nés, nous avons simplement à vivre notre vie difficilement, douloureusement, avec ce poids, effectivement, d'être né, qu'il appelle péché originel, mais dont on peut se sauver, soit par l'écriture dans son cas, soit par la grâce si on y a accès. Mais cette idée que il n'y a pas à être fier d'être, et d'être ce qu'on est,
hein,
sans aller jusqu'au masochisme et la haine de soi, de dire le moi est haïssable. Quand on dit ça, généralement, c'est surtout celui des autres qui est haïssable.
Oui, c'est vrai. Jacques Julliard. Moi, je me garderais bien de me dire pascalien, d'abord parce que je n'en serais pas digne, et en même temps parce que ça n'a pas de sens. Il y a des choses comme vous, il y a des choses dans Pascal qui me révulsent, cette espèce de catharisme dont nous parlions tout à l'heure. En revanche, à tout moment, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, Pascal nous tire vers le haut. Et c'est-à-dire que c'est ce que je le disais en commençant, quand je trouve la vie trop banale, trop plate ou trop désespérante, la lecture de Pascal, d'abord parce qu'il y a ce style de feu, mais aussi parce que il prend les problèmes à un niveau qu'on n'attend jamais quand dans la vie quotidienne, il nous tire vers le haut. Et c'est pour ça que c'est un écrivain, c'est peut-être le plus grand écrivain français. En tout cas, c'est le plus exceptionnel. Il n'y en a aucun. Moi, je fais une exception pour certains passages de Simone Veil, mais il n'y a aucun qui nous permette de... comment dire, de nous tirer nous-mêmes vers le haut. On peut pas le faire soi-même comme le baron de Münchhausen en se tirant par les cheveux, mais on peut le faire en lisant les pensées, quoi.
Il nous tire vers le haut et en même temps, on court toujours le risque en le lisant, et je reviens à une formule qu'on utilisait tout à l'heure, d'être complètement désespéré. Quand il dit le moi a deux qualités, il est injuste en soi, en ce qu'il se fait le centre de tout, il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. On se dit, mais quoi, la société est sans issue. Et pourtant, il y en a quand même.
C'est pour ça que Pascal, dont je disais que c'est une sorte de libertaire transcendantale, il pense que toutes les supériorités sont purement arbitraires. Il y a un côté presque anarchiste dans la vision de Pascal. Il dit certes, l'égalité est le mieux, etc., etc. Mais en même temps, il faut que la société vive parce que la guerre civile est le plus grand des maux.
Voilà.
Et donc, ce qu'on pourrait dire, la partie droitière, la partie conservatrice de la pensée de Pascal, c'est tout simplement d'éviter la guerre civile et d'accepter certaines injustices, ou plus exactement, certaines inégalités mineures pour préserver l'homme des dangers majeurs que sont la guerre et la violence.
Il écrit sous la fronde, hein. Enfin, il a été, en tout cas, ces années de, oui. Ont été marquées par la guerre et la guerre civile.
La guerre civile qui est quand même le traumatisme inaugural de la modernité philosophique et politique.
Absolument.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Michel Schneider et Jacques Julliard. Je rappelle, Jacques Julliard, que vous avez publié Le choix de Pascal, un livre d'entretien avec Benoît Chante, qui est aujourd'hui disponible dans la collection Champs. Et votre Pascal, Michel Schneider, vient de paraître dans la collection Les auteurs de ma vie chez Buchet-Chastel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.